RCF.
Que peut bien vouloir dire se donner totalement ? À quoi ressemble une vie qui délaisse les mondanités ? Que signifie suivre le Christ et passer par la croix quand on est chrétien? À ces questions, l'avis de Marie Skoptsov pourrait bien nous apporter quelques réponses. C'est cette femme russe, exilée après la Révolution, qui vous a en tout cas beaucoup inspiré, Laurence Varro. Bonjour.
Bonjour Madeleine Vatel.
Vous êtes de confession orthodoxe et vous vous êtes passionnée pour la vie de Marie Skoptsov au point de lui consacrer une biographie intitulée Marie Skoptsov, sainte orthodoxe victime du nazisme, c'est aux éditions Salvator. Et puis plus récemment, prier 15 jours avec Marie Skoptsov, sainte orthodoxe, juste parmi les nations, et c'est publié chez Nouvelle Cité. Alors c'est un livre de prière, mais c'est aussi un livre pour mieux connaître ou découvrir la spiritualité d'une femme incroyable, mère de famille, moniale, intellectuelle, tournée vers l'action, résistante, puis déportée au camp de Ravensbrück. Et tous ces événements n'ont cessé de la convertir. Sa sainteté a été reconnue en 2004 par le patriarcat œcuménique. Laurence Varro, qu'est-ce qui la rend sainte, alors pour les orthodoxes, mais aussi à vos yeux?
Alors, ce qui la rend sainte pour l'Église orthodoxe et à mes yeux, c'est le mouvement de conversion, de métanoïa, qui a été jusqu'au bout, parce qu'au départ, c'est une jeune fille qui naît dans un milieu très privilégié en 1891 dans l'Empire russe et qui meurt à Ravensbrück après avoir tout donné. Elle est ce que les chrétiens orthodoxes appellent communément une athlète du Christ, pour reprendre des expressions des premiers siècles. Ce qui fait qu'elle est sainte, c'est la réputation de sainteté, comme chez les catholiques, fama sanctitatis, disait-on autrefois. La reconnaissance aussi de sa luminosité qui était visible, parce qu'on aura l'occasion d'en parler, la grâce incréée se voit chez les saints.
Il y a des témoignages, il y a des écrits aussi, ceux de Marie Skoptsov, mais c'est vrai qu'on trouve aussi d'autres témoignages de femmes qui l'ont rencontrée, on y reviendra aussi plus tard. Et pour vous ?
Alors, sa luminosité physique, parce que ce n'était pas une image symbolique, c'est une réalité. Je crois que ce qui m'a surtout stupéfaite quand j'en ai entendu parler et quand je me suis intéressée après à elle, ça a été cette capacité de changement et de dépouillement total jusqu'à la fin. Oui. Sa force physique aussi, peut-être parce que je n'ai pas. Elle donnait l'impression de quelqu'un qui avait peu de limites et qui était capable de vaincre tous les obstacles. Ce qu'elle a fait, parce qu'elle a traversé deux guerres mondiales, une révolution... Et
la mort de trois enfants.
La mort de trois enfants.
Et les atrocités qu'elle a pu voir de ses propres yeux. Alors vous le disiez, Marie Skoptsov, elle nous fait un peu saisir l'immensité russe parce que donc elle est née à la fin du 19e siècle, c'est Riga, mais à l'époque c'est la Russie. Après elle ira vivre près de la mer Noire, à Saint-Pétersbourg aussi. Et c'est aussi l'immensité des idées. En quelque sorte, puisqu'elle est attirée au départ par des idées progressistes, révolutionnaires. Elle s'engage au Parti Socialiste Révolutionnaire. Elle est de milieu aisé, mais elle parle aux ouvriers. Vous diriez qu'elle a cet aspect non conventionnel, en quelque sorte?
Un aspect non conventionnel, mais en fait très russe comme comportement. Effectivement, elle vient d'une famille de la haute fonction publique. C'est des gens qui ne sont pas très riches, non? Et en aucun cas ce qu'on appelle maintenant des ultra-riches. Mais ils ont des biens, ils ont des vignobles, ils ont une propriété dans le sud de la Russie, où elle vit. Son père, à un moment, est nommé à Yalta, donc elle va vivre à Yalta. En fait, le décor de sa vie, à part Saint-Pétersbourg, où elle va en vacances, mais où elle vivra après 1905, après la mort de son père, c'est la carte qu'on voit en ce moment, c'est-à-dire la mer Noire. La Crimée, c'est là que ça se passe. Pour revenir à ce qu'on peut voir en ce moment beaucoup aux informations.
Thank you. Marie Skoptsov, elle est attirée par ses idées révolutionnaires, mais elle est aussi dépassée par le bolchevisme en quelque sorte, et puis plus tard par la Terreur rouge aussi. Est-ce que c'est une contradiction entre ce qui se passe au niveau politique et puis les cours qu'elle suit, les cours de théologie, qui vont faire d'elle la première femme diplômée en théologie dans cette université de Saint-Pétersbourg? Est-ce qu'elle est saisie par cette contradiction de à la fois ses cours de théologie et ce qui se passe autour d'elle au niveau politique, au niveau des idéologies?
Alors, pas tout de suite, parce que d'abord, c'est quelqu'un qui écrit de la poésie, qui publie de la poésie, qui va se marier avec un jeune avocat, un jeune juriste, avec lequel elle va mener une vie très littéraire, au sens où ils vont fréquenter essentiellement des poètes et des éditeurs et des écrivains. Où elle va elle se lèvera jamais avant midi, et puis finalement assez vite commence quand même un cheminement qui fait qu'elle est insatisfaite de ce mode de vie, même si elle est reconnue et où on pourrait considérer qu'elle a une vie finalement extrêmement agréable.
Oui, elle est dans les cercles de l'intelligentsia russe. Je voudrais qu'on écoute juste un passage, vous le citez d'ailleurs dans votre ouvrage, un passage de ses écrits qui raconte justement ce qu'est cette Russie de l'intelligentsia. Et c'est un texte qui est lu par Guillaume Galbon.
Nous vivions au centre d'un immense pays comme d'une île déserte. La Russie ne savait pas lire, mais toute la culture du monde se concentrait dans notre milieu. Nous étions des citoyens de l'univers, des gardiens du grand musée de la civilisation humaine. Rome, au temps de la décadence, nous ne vivions pas, nous jouissons de ce qu'il y a de plus raffiné dans la vie. Nous ne reculions devant aucun mot dans le domaine de l'esprit. Nous étions cyniques et impudiques, mais inconsistants et non agissants dans l'existence même. Dans un certain sens, c'était la révolution avant la révolution, car nous creusions profondément, impitoyablement, fatidiquement, dans le sol des vieilles traditions.
Alors, je reviens à ma question, Laurence Varro. Est-ce qu'il y a là une contradiction? Est-ce qu'elle est saisie par ce paradoxe à la fois du contexte dans lequel elle vit? Vous le disiez, c'est une véritable stimulation intellectuelle. Et en même temps, elle a une profondeur. Elle creuse aussi au niveau théologique cette recherche de Dieu.
Alors, très rapidement, effectivement, elle demande son admission à l'Académie de théologie où elle ne sera pas, comme on dit maintenant, en présentiel. Elle va suivre par correspondance et... Là, c'est le début, si vous voulez, d'un cheminement et d'une conversion qui n'aura en quelque sorte jamais de fin, qui va durer toute sa vie, jusqu'au martyr à Ravensbrück. On peut reprendre l'image de l'échelle sainte de Saint Jean Climac, qui est un grand texte de spiritualité orthodoxe, et on voit qu'elle passe de barreau en barreau, et quelquefois on chute et on redescend d'un barreau. Et là, effectivement, si elle recherchait profondément par l'inscription à l'Académie de théologie autre chose, c'est qu'il y avait déjà un mouvement qui s'était amorcé. Et effectivement, au moment où la révolution arrive, ce qui pourrait être pour elle une satisfaction totale, elle va d'ailleurs être la première femme à être élue maire. Elle va être maire d'Anapa.
Au bord de la mer Noire.
Oui. Elle voit ce qui se passe, elle comprend que... la violence du communisme qui s'installe n'est pas compatible avec ce à quoi elle est en train de s'attacher. Et puis, 2 ans après, les Blancs reprennent la ville et elle va passer en jugement.
Les Blancs, c'est ceux qui défendaient le tsar.
Ceux qui défendaient le tsar. Pardon.
Par opposition aux Rouges,
voilà.
Qui étaient eux au pouvoir.
Et elle avait déjà, depuis un certain temps... Alors, elle est arrêtée par les Blancs, mais en fait, elle était déjà beaucoup plus proche d'eux, finalement. Pourquoi? Parce qu'elle a compris que la révolution russe, qui installait le communisme, installait tout simplement le totalitarisme. Et donc, toutes ces illusions de jeune fille se sont effondrées.
Y compris ce goût qu'elle avait pour la liberté. Vous diriez qu'elle comprend que sa liberté ne la trouvera pas dans cet idéal, entre guillemets, politique.
elle n'a aucune illusion sur le fait que ce qui s'installe, c'est le contraire de la liberté.
C'est de là que naît l'insatisfaction.
La satisfaction, je pense que ça a été une insatisfaction presque physiologique quand elle vivait à Saint-Pétersbourg. Au sens où cette vie était épuisante nerveusement. Et finalement, c'est quelqu'un qui avait toujours vécu au grand air. Et je pense qu'il y a eu une part de ça. Si vous voulez, il y avait un côté quand même très factice. On peut retrouver ça d'ailleurs dans la vie parisienne, hein, sous certains aspects. Donc je pense qu'elle n'a pas tenu le coup très longtemps. D'ailleurs, elle va se séparer de son mari. Elle va rencontrer quelqu'un d'autre qu'on ne connaît pas. Elle va avoir un premier enfant qui n'est pas un enfant du mari, mais comme elle est encore mariée, le mari est le père.
La reconnaît.
Et donc, il n'a même pas à la reconnaître, ils sont mariés. Donc, il ne la désavoue pas. Il la considérera toujours comme sa fille. Elle s'appelait Gaïana. Elle est née en 1913 et elle est morte en 1936.
Donc, très jeune.
Très jeune, oui.
Et la mort de cette fille va provoquer chez Marie Skoptsov, dont nous parlons depuis le début de cette émission, un véritable chamboulement, une conversion, et c'est ce que nous verrons dans la prochaine émission. Merci beaucoup Laurence Varro, on vous retrouve demain.